dans les faits, il vaut mieux faire une diète low carb intelligente qu'un cétogène à la con. Et quand bien même il serait pas en déficit calorique, bah, le corps il manque de quelque chose. Donc forcément, comme toute restriction, au début ça marche. Jusqu'au moment où ça marche plus.
Donc j'avais lu que c'était un truc extrême
et que forcément on perdait plein de poids. Résultat des courses, j'en ai gagné 5 que je n'ai jamais vraiment perdu.
Bon, bienvenue à tous sur la chaîne J'alimente ma santé. Aujourd'hui, une invitée qui nous rejoint, que je suis déjà depuis super longtemps. Je vais te laisser te présenter à nous parce que je pense qu'on a plein de choses où on va pouvoir parler de plein de choses et qui vont intéresser beaucoup de personnes qui sont sur ma chaîne, forcément, parce que ça va parler nutrition, santé, bien-être, etc., puisque tu es dans la même chose que moi. Je te laisse la parole, je te laisse te présenter, et ensuite, je poserai toutes les questions que j'avais envie de te poser depuis super longtemps.
Eh ben merci. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je déteste me présenter, mais mon prénom, c'est Joanne, pas Johanna, même si tout le monde a tendance à... Et moi, je suis comme toi, hyper intéressée par nutrition, métabolisme et autres que nutrition. Mais depuis un certain nombre d'années, je me suis vraiment spécialisée vers la diète cétogène et le mode de vie qui va avec. Pas exclusivement, mais c'est quand même mon principal centre d'intérêt et c'est autour de ça que j'ai construit ma chaîne, mon livre et les choses que je fais.
Ok, donc tu as une chaîne YouTube, c'est ça ?
Ouais, qui s'appelle Super Keto.
Super Keto, voilà. Tu fais quoi exactement ? Tu accompagnes des personnes aussi ?
Oui, je le fais aussi, même si c'est pas, je le fais aussi, même si c'est pas l'essentiel de mes activités, mais je le fais aussi parce que je pense que c'est pas une diète qui est facile à mettre en place. Donc dans un sens, moi, j'accompagne des personnes qui veulent le faire. Et dans l'autre, je trouve que faire du coaching, c'est aussi se rendre compte de c'est quoi les difficultés au-delà de « Oh oui, dans les livres, on fait ça, et puis on passe en cétose, hein, et puis on perd du poids. » En fait, non, c'est pas ça qui se passe. Les gens, ils ont des difficultés, ils ont des problèmes de santé, ils ont des contextes. Et le fait de travailler avec eux en coaching, bah, ça va dans l'autre sens aussi, c'est que moi, ça m'apprend des trucs. Et c'est pour ça que j'aime bien.
D'accord, ok. Bon, ce qui est intéressant ici dans notre approche, c'est que on peut avoir un dialogue ensemble, et c'est ça que j'apprécie aussi chez toi, c'est que tu n'es pas dans un dogme à dire voilà, c'est ça et c'est ça pour tout le monde. De la même manière que moi, je parle beaucoup de profils, etc., et que je donne jamais la même diète en fait en fonction des personnes que je vais accompagner. En revanche, moi, je m'y connais pas du tout en diète cétogène. C'est quelque chose que j'avais déjà un petit peu testé sur moi et qui n'avait pas du tout eu de bons effets, on va dire. Et donc, je ne suis pas la meilleure personne pour accompagner les personnes en diète cétogène. Des personnes qui viennent me voir et qui veulent faire ce type de diète, en fait, je les renvoie vers d'autres personnes. Et hélas, j'ai souvent des personnes qui viennent d'une diète cétogène et qui veulent reprendre une alimentation traditionnelle, conventionnelle, parce qu'elles se sont pris un mur avec cette diète. Donc, moi, ce que j'aime ici aujourd'hui, c'est qu'on peut enfin échanger et être opposé dans notre manière, en fait, de voir les choses. Parce que moi, personnellement, je ne vois pas ma vie sans glucides, par exemple. C'est impossible. Tu vois, parce que j'adore ça. J'adore manger des pâtes, du riz, des pommes de terre, etc., des fruits, des légumes. Et que sans glucides, en fait, je n'ai aucune énergie et que je suis fatiguée et qu'à la salle de sport, je ne prends pas de masse musculaire. Enfin, voilà. Donc, je sais que moi, j'ai besoin de ça. Après, peut-être qu'on en discutera aussi, que je ne suis jamais vraiment rentrée dans un état de cétose, mais est-ce que je le veux vraiment, tu vois? C'est ça aussi la question. Parce que j'aime trop manger, j'aime trop la diversité, j'aime trop tout ça. Et je sais que je ne serais pas capable, en fait, de tenir sur le long terme. C'est pour ça que c'est important aussi que tu nous expliques certaines choses. Que quand on se lance dans une diète cétogène, c'est pas juste je fais ça un jour ou deux ou une semaine ou un mois, c'est vraiment quelque chose que tu veux faire pour toute ta vie en fait. Hein. C'est bien ça.
Je pense qu'il y a quand même des personnes qui en tirent des bénéfices pour l'avoir fait une fois, mais comme tu as dit, une fois pour de vrai, pas une fois trois semaines. Parce que même si tu le fais pas toute ta vie, juste le fait de retrouver la possibilité, la capacité, la flexibilité métabolique de pouvoir brûler du gras quand il y a du gras, quand il n'y a pas de glucides, et inversement, bah c'est intéressant aussi, mais tu vois, il y a quelques années, je t'aurais dit non, mais voilà, il n'y a que la diète cétogène. Et aujourd'hui, je pense que ben c'est intéressant que le corps il soit capable de faire les deux. Nous, on s'est spécialisé dans faire glucides. C'est un choix. Il a ses inconvénients comme l'autre a ses inconvénients aussi, voilà.
D'accord, ok. Toi, en fait, pour revenir un peu sur ton parcours, qu'est-ce qui t'a fait le déclic de te dire, tiens, demain je me mets à la diète cétogène? Qu'est-ce qu'il y a eu en fait? C'était quoi le déclic chez toi?
Moi, je suis arrivée pour la mauvaise raison. C'est que je voulais perdre du poids, alors que je n'avais pas à perdre en plus, et que je me sous-alimentais déjà, et que parce que j'avais des blocages hormonaux et intestinaux et machin, bon bah ça se passait pas pour moi. Et donc j'avais lu que c'était un truc extrême et que forcément on perdait plein de poids. Résultat des courses, j'en ai gagné 5 que j'ai jamais vraiment perdu, et donc c'était pas, je sais pas, j'ai pas trouvé ce que j'étais venue chercher, mais c'est pas grave parce que c'est pas grave parce que ça m'a permis de trouver la diète cétogène quand même. C'était pas ça, c'était pas, voilà, la perte de poids, non.
Ouais, en gros, s'il y a des personnes qui viennent te voir et qui te disent OK, Joanne, je veux perdre du poids, est-ce que je peux faire la diète cétogène? Est-ce que ça va me convenir, etc. Donc les personnes qui veulent perdre du poids, tu leur déconseilles en fait de faire une diète cétogène?
Non, mais je leur préviens que l'adaptation, ça va leur faire prendre certainement du poids s'ils veulent la faire correctement et sans heurter leur métabolisme, parce que enlever les glucides comme font plein de gens et pas manger assez de gras ajouté à côté comme font 99% des personnes, ça leur défonce le métabolisme. Moi, je pourrais leur conseiller de faire ça, hein, parce que 2 ans plus tard, ils reviendraient en coaching avec moi. Ce serait merveilleux, hein, j'aurais du travail, mais non. Donc, je leur dirais, tu peux le faire, parce que si tu veux changer de métabolisme, c'est une bonne façon de faire, mais par contre, t'attendre à ce qu'il y ait une phase de prise de poids, et est-ce que tu es prêt à l'accepter? Et la plupart des gens, non. Donc,
D'accord. Donc
je
en
suis
fait,
pas quelqu'un qui racole beaucoup, hein. Je...
ouais. Alors moi, ce que j'ai eu beaucoup aussi comme témoignage, c'est des gens qui, au début de la diète cétogène, en fait, ont perdu du poids et qui après ont voulu revenir à une diète classique, normale et ont repris beaucoup de poids. Et j'ai beaucoup de sportifs aussi, tu vois, qui m'ont témoigné et qui m'ont dit. Qu'ils avaient du mal en fait à prendre de la masse musculaire ou à prendre tout simplement du poids et que la diète cétogène les a énormément aidés en fait après à avoir un métabolisme complètement différent. C'est-à-dire que du coup, pour prendre du poids, ils se sont mis à une diète cétogène pour pouvoir prendre du poids par la suite. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Ah bah écoute, je tombe des nues parce que c'est la première fois que... Mais je pense, et je veux pas leur jeter la pierre, mais qu'ils ont fait une diète cétogène comme tous les gens font et comme il faut pas faire. Et du coup, évidemment qu'ils prennent pas de masse musculaire, mais normalement, l'anabolisme, c'est un signe d'adaptation. Si tu prends pas de masse musculaire à la salle quand t'es en diète cétogène, c'est que, effectivement, t'es pas adapté, il y a un truc qui se... C'est un signe, ça doit te mettre la puce à l'oreille. Moi, franchement, j'ai arrêté d'aller à la salle parce que mon copain, il trouvait que j'avais trop de dos, j'avais trop de cuisses, j'avais trop de muscles partout, quoi. Je pense que, enfin, je peux pas le savoir parce que je leur ai pas parlé à ces personnes. Toi, tu leur as parlé, mais je serais curieuse de savoir comment ils l'ont fait. Un sportif qui n'a pas au moins 300 grammes de matière grasse ajoutée, il a fait de la merde. Ah
D'accord.
non, c'est pas trop politiquement correct ce que je viens de dire.
Ouais. Non, non, mais on peut, de toute façon, vas-y, hein, on est là pour ça, de toute façon. Donc là, en gros, tu me dis qu'il faudrait manger 300 grammes de lipides à l'indice pour avoir une diète cétogène correcte pour un homme.
Non, je parlais plutôt d'un sportif, mais je parlais plutôt d'un sportif, tu vois, quelqu'un qui un athlète, quelqu'un qui. Mais de manière générale, quand. Il y a des personnes qui veulent être en phase d'adaptation, et même des femmes, et même des petites comme moi, et même des pas très sportives comme moi, ben, je leur demande d'essayer de se rapprocher le plus possible de 200 grammes. Et c'est même pas 200 grammes de lipides sur l'appli, non, c'est 200 grammes de genre beurre, huile, matière grasse saturée animale. Parce que sinon, en fait, elles vont apprendre à vivre sans glucides, mais ça va être hyper mauvais pour les surrénales, hyper mauvais pour la thyroïde, ça va stresser tout le monde. Parce qu'en fait, à côté de ça, Il n'y a pas assez de gras et les gens, ils sont là, à dire, ah oui, mais je mange des avocats, je mange des noix, je mange du bacon. Non, non. Oui, enfin, très bien. Ça, c'est des bons aliments pour toi. Mais tu as enlevé les glucides. Si tu te donnes pas un carburant à côté, bah, ton corps, oui, il va appeler à plein de points à un moment. Hein, sauf qu'au bout d'un moment, il va dire, bah, tu sais quoi, débrouille-toi, moi, je veux survivre. Hein.
D'accord. Ouais, donc en fait, une diète cétogène, si tu mets pas énormément de lipides, tu peux pas la tenir. Parce qu'en fait, ton carburant, avant, c'était les glucides, et éventuellement un peu les lipides, même parfois les protéines qui se transforment aussi en glucides. Et là, quand tu passes en fait en diète cétogène, tu ne comptes quasiment que sur les lipides pour fonctionner et pour avoir de l'énergie. C'est
Et
bien
puis
ça?
surtout pour pas, ouais, et puis pour pas avoir à prendre dans ta masse maigre aussi, parce
Oui.
que on veut pas ça. Et c'est aussi pour ça que les gens prennent du poids au début, parce que quand tu fais ça, tu mets plein plein de matière grasse pour apprendre à ton corps à brûler ça, mais t'as pas encore appris, et t'as encore la glycémie déréglée, et t'as encore la résistance à l'insuline, et encore tu dors pas bien, et encore t'as des mitochondries éclatées. Bah forcément tu prends du poids parce que t'es pas habitué en fait à gérer tout ça comme matière grasse. Mais c'est ce que tu as dit, c'est exactement ça, c'est.
Ouais, en fait, tu passes sur un nouveau carburant. La plupart des erreurs que tu peux voir, toi, sur des personnes qui pensent être en diète cétogène, parce que moi, honnêtement, je pense que même quand j'ai voulu faire, entre guillemets, la diète cétogène, je pense que je n'ai jamais mangé autant de lipides et en fait, je n'y arrivais pas.
Bah
J'essayais de manger des lipides, mais ça m'écœurait super vite. Et puis, dans
oui.
mon assiette, moi qui aime en fait avoir plein de couleurs, plein de choses dans mon assiette, tu vois, me dire je vais manger juste une demi-bouteille d'huile d'olive, bah comment te dire que en fait j'avais pas du tout envie de ça, tu vois. Donc j'avoue aussi que certainement je l'ai mal fait hein, quand j'ai voulu le faire, mais c'est juste que en fait mon corps n'arrivait pas à le faire, j'avais pas envie et ça m'écœurait en fait, tu vois, toute cette huile, toute cette graisse, tout ce qu'il fallait consommer, bah déjà le peu que je mettais en plus, pour moi, c'était beaucoup trop. Donc, la principale erreur, ça va être ça, c'est de ne pas mettre suffisamment de lipides.
C'est 99% du temps ça, parce que en plus, si t'as un tant soit peu, si ton corps est enfin. Son corps, il sent qu'il n'y a pas assez. Donc, il va t'envoyer chercher quelque chose. Si par malheur, tu as un peu de candidose, tu vas mais déglinguer à la première occasion venue la baguette ou la tablette de chocolat ou machin. Parce que plus tu restreins, plus tu donnes rien en échange et plus c'est dur et tu es dans la tension et... tu vois.
Ouais.
Et pour certains, c'est des fruits et pour d'autres, c'est autre chose. Mais... Le but aussi de mettre énormément de matière grasse, c'est de, et c'est dur, tu l'as dit, parce que le corps, il n'est pas habitué, en fait. Tu sais, il optimise un peu tout. Si tu as l'habitude de manger 40 grammes de matière grasse par jour, tu produis les enzymes et les sels digestifs et les sels biliaires qui sont pour digérer ça. Et si demain tu passes à 250, c'est pas prêt, quoi. Et il y a plein de gens qui sont pas prêts, c'est pas agréable. Et du coup, ils se disent, ah, oh, j'ai plus faim. C'est que je dois être adaptée, j'ai plus besoin de manger, tu vois, je vais faire du jeûne intermittent à gogo, et alors là, bah catastrophe, parce que toi-même tu sais.
Oui, dans ce jeûne intermittent en diète cétogène ou enfin moi je suis pas pour du tout hein. Mais bon, on sait pourquoi hein. Mais oui, alors la plupart du temps déjà en fait ce qui est dur c'est au final de pouvoir passer sur une autre énergie, le corps n'a pas encore l'habitude de passer sur l'énergie des lipides, mais et en plus de ça, tu n'as pas encore la capacité digestive de digérer tous ces lipides. Il y a une
Mais
phase
ouais,
d'adaptation qui est compliquée en fait.
c'est super compliqué. Et en plus, les gens ne font pas attention. Alors, minéraux, donc tu manges plus de glucides, bah, tu produis plus d'insuline ou très peu. Donc, tes reins, ils relâchent tout. L'eau, les minéraux, tu ne trouves plus rien. Tu as des maux de tête, tu as des nausées, ça ne va pas. Et du coup, tu te dis, bah non, c'est pas bon pour moi. Faut que j'arrête. Mon corps, il me donne plein de signaux que ça ne va pas. Et tu as raison. Donc,
Oui,
c'est une autre complication. Et ces trois choses réunies, ça fait que... Ouais, le démarrage, c'est pas cadeau, quoi.
bah, toi, ça fait combien de temps là que t'es vraiment, vraiment là-dedans et adapté?
7 ans et demi.
7 ans et demi. Et en 7 ans et demi, jamais tu t'es dit dans ta tête, tiens, je remangerai bien comme avant ou avoir envie,
Si.
tu vois, de voir d'autres personnes manger différemment.
Si, bah en fait des fois je fais des fois je fais des cheats et je dirais qu'avec la avec le temps et avec le métabolisme qui change, tu vois, enfin avant quand je faisais un écart, quand je faisais un cheat day, quand je faisais un cheat meal, ça prenait des semaines avant de revenir à la normale, que ça soit le poids ou je sais pas les signaux d'énergie ou les taux sanguins, et aujourd'hui c'est plus comme ça, je peux un peu naviguer de l'un à l'autre, sauf que j'aime pas le ressenti des glucides, j'aime pas le ressenti de manger des glucides, j'aime le ressenti et l'apaisement de manger du gras. Donc oui, des fois j'aimerais bien manger comme les autres, ça serait vachement plus facile au quotidien, mais je privilégie juste le bien-être, tu vois.
Toi, c'est quoi les principaux points positifs que cette alimentation, elle t'a apporté?
Moi, j'étais quelqu'un. Déjà, j'ai eu des TCA longtemps et j'étais très anxieuse avec la nourriture. Mais tu sais, le genre de, je pense à la nourriture toute la journée. Tu vois, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que j'ai mangé? Et toute la journée, c'est ça prend toute la place. Et bon, c'est aussi des symptômes de candidose. Hein, mais le fait de devoir, je crois que je suis restée 6 mois à 200 grammes de matière grasse ajoutée. Donc, quand tu fais ça 6 mois, t'as plus envie de rien en termes de bouffe parce que t'as trop en fait. T'es tellement nourri, ton cerveau est tellement rassuré, mais c'est trop, qu'il peut passer du carrequec devant tes yeux toute la journée, t'es là genre, laissez-moi en fait. Et ça m'a apporté de l'apaisement déjà, premièrement, que ce truc de l'alimentation, c'était pas tout le temps là. Ça m'a libéré beaucoup de place pour faire d'autres choses. Ensuite, après, bah, il y a tout ce qui est flux d'énergie qui n'est pas, contrairement à ce que les gens disent partout, que t'es au plafond toute la journée, genre t'as plein d'énergie. Non, c'est juste t'es stable. Que tu manges ou que tu manges pas, t'as à peu près le même flot d'énergie si t'es adapté. Et je sais pas, enfin j'ai l'impression que quand je fais des cheats au niveau digestif, c'est désagréable pour moi, vraiment, j'ai mal au ventre. Ça sent pas bon, sorry. Et que le confort que j'ai digestif et quand je mange cétogène, j'adore. Voilà, il y a des trucs, détails, mais ma peau est mieux, plein de trucs sont mieux, j'aime mieux le corps que j'ai, enfin voilà.
D'accord. Et par rapport à ton microbiote, à la diversité, etc., tu vois, on parle souvent que bah voilà, il faut manger des fibres pour nourrir notre microbiote, pour nos petites bactéries, voilà. Et est-ce que le fait justement que tu manges très très peu de fibres ou de diversité de légumes, de fruits, de céréales, etc. Le fait d'en réintroduire peut-être pendant tes périodes de cheat fait que bah, t'as pas suffisamment de bactéries en fait pour digérer toutes ces fibres et que du coup ça fait un peu le bazar dans ton ventre.
Ah, probablement, probablement. Je n'avais pas pensé à ça, tu vois, mais c'est une bonne. J'avais pas pensé à ça, mais bah, c'est sûr que tu doit y avoir quand même un appauvrissement de famille dans un sens, c'est évident. Mais comme ça m'a permis de me débarrasser de la candidose, l'un dans l'autre, j'étais gagnante. J'essaye et c'est vrai que quand tu fais pas gaffe à introduire quand même des petites quantités de glucides, de trucs différents. Je le sens. Je dirais pas que je sens que ça s'appauvrit, mais je sens que ça se passe moins bien, tu vois. Et dès que je mange un truc de travers, je peux avoir enfin, ça peut être très inconfortable. Alors que quand je fais l'effort de me dire, vas-y, ça, c'est la saison de ça, mange-en un peu, ça, arrête de le manger tous les jours. En fait, je pense que c'est pas une question de quantité, mais juste le fait d'avoir un petit peu de légumes par-ci par-là et de saison, ça aide quand même bien.
Ok, donc tu manges quand même, même si c'est beaucoup moins que, on va dire, un omnivore qui mange un
Ouais.
peu de tout, tu manges quand même peut-être des fruits aussi, un des glycémies très bas ou qui contiennent très très peu de sucre et quand même un petit peu de légumes.
Oui, je mange des légumes. Après, les fruits, j'essaye vraiment. Des fois, j'en mange un petit peu, mais uniquement si c'est un truc qui va pousser à ma latitude et à la saison où on est. Donc, enfin. Si c'est pour dire, ouais, vas-y, moi, je mange des fruits rouges parce que les fruits rouges, on m'a dit que c'était bien et qu'on pouvait en être cétogène, mais en fait, c'est des myrtilles balèzes comme ça et hyper sucrées, alors qu'on est à une saison où de toute façon, il n'y a rien parce qu'il fait froid, ben, non, je le fais pas.
Ouais, d'accord.
Mais tu vois, j'ai eu des petites pêches dans mon jardin la semaine dernière, bah, j'en ai mangé des moitiés, tu vois.
Ouais, tu les introduis dans ta diète et ça fait partie du peu de glucides en fait que tu consommes.
Je privilégie de toute façon les légumes, mais je veux dire, si j'ai très envie d'un truc et que c'est là et que en plus c'est la saison et qu'en plus ça pousse dans mon jardin, je vais manger, quoi.
Ouais, d'accord. T'es à combien à peu près en glucides? Tu calcules en net ou en brut, toi, quand tu calcules tes glucides?
Aujourd'hui, je les calcule plus, je t'avoue, mais à la base, je calcule en net. Enfin, je calcule en net sur les légumes et les fruits, pas sur les amandes, les trucs comme ça, parce que sinon, enfin, déjà, j'essaie de pas en manger, premièrement, mais enfin, j'essaie de pas me compliquer la vie, en fait. J'essaie de faire simple et j'ai pas envie de rentrer mes aliments dans une appli. Je le faisais au début, je veux plus le faire. Donc, bah, je sais que si je mange des légumes, je vais manger, je sais pas, 100 grammes de courgettes à mon repas. Ça fait une courgette, quoi. Bah, c'est sûr, ça fait pas beaucoup de légumes. Si toi, ça t'irait pas, je pense, parce que t'aimes bien. J'avais vu, je crois, des vidéos de toi où tu disais que t'aimais bien avoir des assiettes un peu badass, tu vois. Mais c'est plus le volume qui m'amène la satiété maintenant. C'est les calories du gras et tout ça. Donc, au début, c'était pénible parce que moi, je mange vite. Alors, du coup, j'étais là, genre, ah, je finis de manger là. Mais maintenant, ça me fait plus ça. Et pour répondre à ta question, je reste toujours autour des 20 grammes de glucides par jour.
D'accord. Et là, bon, même si tu calcules plus forcément tes macros ou tes calories, parce que tu sais à peu près ce dont tu as besoin, tu estimes à combien le nombre de calories que tu manges tous les jours?
Je suis pas du tout stable, mais ça oscille quand je fais l'effort de compter, ça oscille entre 1007 et 2004.
Ah oui, c'est une grande.
Mais parce que justement, comme ton besoin alimentaire, il est pas vraiment dépendant de ce que tu as pris comme repas, mais plus de quelle est ta qualité d'adaptation aujourd'hui, quelle est ta capacité à aller chercher dans tes matières grasses, et que ça fluctue. Un jour, tu es stressé. T'as passé plein de temps derrière les écrans, on t'a cassé les couilles au travail, t'es glucogénique, t'es catabolique pour plein de raisons, t'as mal dormi. Ben ce jour-là, tu seras pas très capable d'aller chercher dans tes matières grasses. Et tu vas certainement te relayer un petit peu plus sur l'alimentation. Et puis, moi, je me fie vraiment à mes sensations de faim. Donc, des fois, pendant quelques jours, je vais manger plus. Et après, ça va, les quelques jours d'après, moins. Et je me rends compte qu'il y a quand même de la variance, beaucoup, quoi.
D'accord, ouais, ton échelle, on va dire, elle varie quand même pas mal. Est-ce que ça varie aussi par rapport à ton activité physique? Est-ce que quand tu fais du sport ou une activité physique, tu manges plus les jours d'après ou tu manges plus avant pour prévenir ta future séance?
Alors moi je suis pas très sportive, voire pas du tout, mais j'ai quand même des variations d'intensité d'activité si je suis chez moi à la maison ou si je vais travailler dans un magasin et ça se répercute effectivement sur les jours d'après. Je sens que j'ai plus faim.
D'accord. Donc là, en activité physique, tu fais rien de particulier, juste t'es active parce que tu travailles debout.
Bah non, déjà enfin je fais toujours 3 quarts d'heure, entre 3 quarts d'heure et 1 heure de yoga pilates par jour, voilà, et puis après je fais de la danse, et puis après ben j'essaye de toujours marcher au moins 1 heure et demie par jour, entre 1 heure et demie et 3 heures en fonction de voilà l'exercice.
Heureusement que tu fais pas d'activité physique.
Non, on va dire que c'est pas de sport.
Je marche 1 heure et demie, je fais 1 heure et demie pilates, je travaille debout,
Oui.
mais je fais pas d'activité.
Oui, mais tu sais, je fais pas du sport. Mon ostéo l'autre jour m'a dit, non, mais vous avez mal au dos parce que vous faites pas assez de sport. Il faut faire du crossfit, elle m'a dit. Mais ouais, mais je sais, mais en fait, j'aime pas. Comment je fais, du coup?
Ouais, en fait, il faut muscler, il faut se muscler pour avoir moins mal. Mais le pilates, c'est très bien déjà.
Oui, mais visiblement.
C'est pas suffisant.
Mais c'est en fait, c'est là qu'elle. J'avais ce truc avec elle de lui dire, ok, mais d'accord, je fais pas un sport, Mais il y a des personnes qui vont genre 2, 3 fois par semaine à la salle, ils font 1 heure de sport, ils ont l'impression d'être sportifs, mais au final, il n'y a pas beaucoup de mouvement dans leur journée, moi, je trouve. Je préfère ma technique, en fait, pour moi.
Ouais, d'être dans le mouvement, de bouger, de pas être sédentaire, quoi.
Ouais. Mais après, tu vois, quand je regarde tes stories, par exemple, et je vois que tu es souvent à la salle et tout, je me dis, ah, faudrait que je fasse ça. Mais je sais que je ne vais pas le faire. Autant être réaliste et trouver des choses que tu vas faire, toi, parce que tu vas aimer les faire, quoi.
Oui, le plus important, c'est d'arriver à trouver une activité qui te plaise et que tu peux tenir sur le long terme et en même temps qui te fait du bien à ton physique, à ton corps, à ton moral, à ta tête. Parce que si tu y vas avec en freinant des quatre pattes, c'est
Oui.
moyen.
Oui, surtout quand tu payes pour y aller, quoi.
Ouais.
Oui, ma vie n'a pas de sens.
Ouais. Et avant de te lancer dans le keto, est-ce que tu faisais du sport différemment? Est-ce que tu avais une activité physique différente?
En fait, quand j'ai commencé le cétogène, j'étais très très madame salle de sport, religieusement. Tu vois, j'y allais vraiment 4 fois, 5 fois par semaine. Sauf que au bout d'un moment, je me suis ennuyée. Je trouvais plus de goût pour y aller, et je me suis aussi rendu compte que déjà, je passais pas du tout assez de temps dehors dans ma vie de tous les jours, et que en fait, les temps que j'avais de libre, tant qu'à faire, je préférais les passer dehors que sous des lumières artificielles, et que pour moi, ça serait certainement mieux de trouver une façon de faire de l'activité physique, mais dehors, pour équilibrer en fait mon mode de vie qui est un peu, tu vois.
Ouais, t'avais besoin d'aller un petit peu dehors. Après, oui, tu peux trouver une activité en extérieur aussi, hein.
Oui, non, mais bah, d'ailleurs, mon pilates, je le fais dehors, mais dans mon jardin.
Bah ouais. Non, mais t'as raison, c'est ce qu'il faut faire. Bah, tu prends des haltères, tu te mets dehors aussi, de temps en temps. Bon, je sais, t'aimes pas la muscu,
Non,
mais.
mais il faut que je...
Ok. Qu'est-ce que je voulais te poser comme question? Donc, on a parlé de... Ouais, en gros, ta journée alimentaire, c'est quoi une journée alimentaire d'une personne qui est en keto?
Je vais prendre mon cas que je suis adaptée, donc j'ai plus besoin de me rajouter du gras, ajouter toute la journée avec des fats bons, mais en général, un petit déj où j'ai soit de la viande hachée, soit du foie, soit des œufs, soit du saumon avec un petit légume, un bon 40-50 grammes de beurre. Et si j'ai pas, admettons, tu vois, je vais pas cuire mes 3 œufs avec 50 grammes de beurre, parce que sinon c'est un peu, quoi que si tu fais des œufs brouillés, ça passe. Mais... Admettons, je les ai cuits avec, je pense à toi en fait, et au fait que c'était dur pour toi de, je les ai cuits avec que 20 grammes de beurre ou 30 grammes, bah, les 20 qui restent, je vais me faire une boisson grasse. Je vais mélanger du lait de coco avec du beurre émulsionné et puis ça ou d'autres types de matières grasses, mais je sais que pour le matin, il faut que j'ai un bon. Je veux envoyer à mon cerveau l'information que ouais, il y a des protéines et il y a aussi du gras, enfin il y a de l'énergie, il y a pas raison de s'inquiéter. Moi, je suis pas le genre de personne qui rate le petit déjeuner, jamais jamais, et je le fais consciemment. Je veux vraiment pas dérégler ma leptine. Enfin, je suis très. On prend un petit déj. Après. Je prends aussi un repas de midi. Mais c'est dans le fond la même structure. Mon repas de midi, il ressemble à mon petit-déj, il ressemble à mon repas du soir. C'est toujours une base de protéines que j'essaye d'être au plus près possible de ce que mon corps a besoin. Plein de gras, un petit peu de légumes. Et voilà, après, ça peut être prendre un carré de chocolat 100%, je peux, enfin, il y a plein de trucs qu'on peut faire autour de ça, mais la structure, c'est vraiment ça. Et le soir, c'est pareil, sauf que si je mange tard, je vais réduire les quantités.
Ok, tu prends une collation, des collations dans la journée?
Ouais. Enfin, ça, c'est vraiment dépendant de, bah, comme on disait, c'est ça qui va faire varier, en fait, parce qu'en fait, les boissons grasses, liquides, en général, c'est facile à 400 calories. Donc, si Tu vois, si t'en prends une ou deux, bah forcément d'un coup, t'as un gros delta, quoi.
Ouais. Et oui, forcément, du coup, ta base, tes trois repas principaux, ça doit faire à peu près dans les 1700, c'est ça?
Ouais.
Et après, tu vas rajouter une, voire deux collations qui peut te
Ouais.
monter à 2000 ou 2004, quoi.
Ouais, c'est ça.
D'accord. Donc, c'est sur les collations, en fait, que tout va se jouer en fonction de bah, si tu as plus faim, si tu as besoin de manger plus. Et du coup, c'est ça qui va te faire monter tes calories.
Oui, ou même, même la quantité de gras que tu vas ajouter sur ton repas, parce que moi, les personnes qui sont en phase d'adaptation, je leur dis bah, c'est 50 à chaque repas. Mais admettons que tu manges à l'extérieur et tu vas au resto, et même quand tu dis au serveur, excusez-moi, est-ce que je peux avoir du beurre en plus, il va t'amener un petit truc de 10 grammes comme ça, enfin c'est 8 maintenant, parce qu'on ratiboise un peu sur les quantités. Bon, tu vas pas réussir à lui demander 6 ou 7 tablettes. Donc, tu as eu moins, en fait, d'un coup, ton repas, il est. Et tu. Si tu as l'habitude, tu sens que tu n'as pas eu assez. Parce que même si on t'a donné en échange des légumes, c'est pas pareil en calories. Donc, tu le sais. Et effectivement, ces boissons grasses et ces quantités de gras ajoutées, c'est ça qui fait vraiment l'écart. Et je pense que c'est à cause de ça que les gens commencent à perdre beaucoup, beaucoup de poids au début. Parce que comme ils n'en mettent pas plein, ils sont en fait en gros déficit calorique sans se rendre compte. Et quand bien même ils ne seraient pas en déficit calorique, ben, le corps, il manque de quelque chose. Donc forcément, comme toute restriction, au début, ça marche. Jusqu'au moment où ça ne marche plus. Et là, tu es bien emmerdé, quoi. Parce que non seulement tu perds plus de poids, en plus, tu refais la même chose que ce que tu faisais avant et tu grossis, enfin, enfer.
Ouais. Et ce qui se passe aussi, c'est que comme ton corps il est en manque, il va aller chercher dans ta masse maigre. Donc tu
Oui.
t'affaiblis.
Mais grave, grave. Tu t'affaiblis et ton métabolisme se ralentit.
Ouais, c'est
Et
ça.
t'es pas bon.
Et ta quantité de protéines, parce que ça c'est pareil, c'est un truc auquel il faut faire attention en cétogène, parce que trop de protéines peut aussi, tu rentres en néoglucogénèse et du coup tu crées en fait des glucides au travers des protéines, c'est bien ça?
Ouais, exact.
Et ça, beaucoup de personnes font l'erreur aussi de mettre trop de protéines dans une diète cétogène et du coup ne peuvent pas être céto-adaptées parce que ben, ils génèrent encore des glucides.
Ouais,
C'est
c'est
quoi
les
pour toi
protéines.
la limite en fait en quantité de protéines?
Ben c'est ce qui est hyper difficile à déterminer. Je pense que c'est presque le plus dur parce que personne ne peut savoir à la place de ton propre corps comment, combien. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une sorte de quantité de base, on va dire 20 grammes par repas pour une femme, 25 pour un homme. Et ensuite, je la module. Je crois que si la personne, elle a de la résistance à l'insuline, si elle dort mal, si elle n'est pas sportive, si, enfin, tu vois, en fonction de pas mal de critères qui jouent sur ta sensibilité à l'insuline, ta capacité à absorber les protéines, bah, je vais minorer cette quantité ou un peu l'augmenter, mais je préfère que les gens calculent par repas plutôt qu'avec leur appli, ils regardent si sur une journée, ils ont eu le total parce que dans le fond, l'enjeu de l'absorption, il se rejoue à chaque fois que tu manges. Donc, je sais que les applis disent, oui, voilà, il te faut, par exemple, ton goal de poids, c'est 60 kilos, je dis n'importe quoi, et ben, tu vas manger 60 grammes de protéines par jour. Ben, moi, je suis pas trop d'accord avec ça, parce que sinon, c'est une logique qui t'amène à te dire, OK, ben, je fais un one meal a day et je mange 60 grammes de protéines. Ben, non, ça marche pas comme ça, pour les raisons que tu viens de dire.
Ouais. Donc en fait, toi tu pars sur à peu près, hein, c'est une fourchette, hein, 1 gramme de protéines par poids de corps.
Oui.
Poids de corps désiré, pas le poids de corps.
Ouais, mais avec des petites prises qui en optimisent l'absorption. Parce que pour moi, c'est comme ça qu'on va se nourrir le mieux, en fait.
D'accord. Ouais, donc tu pars sur une base de à peu près 1 gramme que tu divises en minimum en 3 prises, quoi.
Ouais, minimum.
D'accord. Tu parlais du sommeil, justement, c'est intéressant. Toi, ton sommeil a toujours été bon dans cette alimentation, ou est-ce que ça a été difficile par moment? Est-ce que tu as des micro-réveils, insomnie? Est-ce que tu traques ton sommeil aussi?
Moi, je pense que pour moi, le sommeil, c'est un des trucs les plus importants. Enfin, des fois, je le mets plus haut que la diète même.
Non, mais t'as raison.
Mais avant, je n'avais pas conscience de ça. J'en ai pris conscience quand j'ai compris que c'était compliqué de se s'auto-adapter et que j'avais intérêt à améliorer mon sommeil si je voulais. Donc là, j'ai commencé à y réfléchir. Et forcément, quand tu commences à réfléchir à un truc, bah, petit à petit, tu comprends comment ça fonctionne et tu fais ce qu'il faut. Et donc maintenant, je pense avoir un peu un sommeil bien badass, mais ça a pris du temps.
D'accord. Et c'est quoi, en gros, pour toi, les piliers, les conseils, ce qui est important pour avoir un bon sommeil dans ce type d'alimentation? Parce que moi, alors, je suis complètement là-dessus, je suis complètement paumée parce que moi, en fait, c'est les glucides qui me font dormir. Tu vois, moi, le soir, je me fais un bon plat de glucides et en fait, je dors trop bien et c'est énormément de protéines le midi, tu vois, par exemple, qui me génère beaucoup de tryptophane, etc., qui fait que j'arrive super bien à dormir. Si je baisse ma quantité de protéines à midi, je dors moins bien la nuit. Si je baisse mes glucides le soir, je dors moins bien la nuit, tu vois. En fait, moi, j'ai besoin de ces deux trucs-là et je me suis observée, en fait, hein. J'ai observé mon sommeil, etc., l'heure à laquelle je me réveillais, micro-sommeil et tout. Et justement, je me demandais comment on peut faire pour dormir sans glucides le soir. Moi, ça m'intrigue, en fait.
Ben, en fait, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de manger, c'est d'avoir fini de digérer quand je vais me coucher. Donc, si je me couche à 22h, ça veut dire que je mange à 18h. Et après, le but de la diète cétogène, enfin, un des principaux bénéfices, c'est d'avoir la glycémie stable, en fait. C'est que la nuit, il ne se passe pas des choses comme ça. Donc, a priori, si ta glycémie est stable, il n'y a pas de raison déjà que tu aies des micro-réveils, il n'y a pas de raison que. Et si, à plus forte raison, si tu as fini de digérer, ben, normalement, c'est facile de s'endormir parce que tu n'as plus. Enfin, je sais que les glucides, c'est vrai que ça provoque une sorte d'assoupissement qui fait que tu rentres plus facilement dans le sommeil, même si, je sais pas, ça tournicote un peu dans ta tête, même si, voilà. Donc, ce que tu dis est assez vrai. Des fois, ça pose problème pour certaines personnes au début parce qu'il n'y a pas cet effet-là. Mais en vrai, beaucoup de personnes dorment mieux parce qu'ils stabilisent leur glycémie. Et après, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées au rythme circadien, à la lumière, au fait de jeûner, pas jeûner, au fait d'avoir les wifi allumés dans la pièce. Enfin, tu vois, des trucs que les gens font et ne se rendent pas compte qu'en fait, au-delà de l'alimentation, il y a quand même des trucs un peu, un peu abusés qui perturbent notre sommeil, quoi.
Oui, non, mais c'est sûr que les écrans bleus, regarder son téléphone ou l'ordinateur avant d'aller dormir, enfin, et puis avoir tous les trucs branchés à côté de sa table de nuit, à côté de sa tête. Enfin, oui, il y a plein de trucs auxquels on pense pas, tu vois, qui sont pourtant hyper importants. Il n'y a pas que l'alimentation, et même l'alimentation, quand tu regardes bien, c'est 7%, je crois, tu vois, de tout. Le principal, c'est quoi? C'est la respiration et après c'est la boisson. C'est enfin, si tu respires pas, tu tiens combien? 2 minutes sans respirer, sans boire, tu tiens 2 jours, sans manger, tu tiens super longtemps en fait. Tu vois, sans dormir, tu tiens peu de temps aussi. Hein. Ça, je pense que
J'avais jamais
l'alimentation,
vu les choses
c'est
comme ça.
vraiment. Hein?
J'avais jamais vu les choses comme ça, mais c'est hyper intéressant.
Bah ouais, en fait, l'alimentation, on regarde, en fait, vas-y par étapes et regarde les trucs sur lesquels tu peux tenir le plus longtemps possible. En fait, de tous les trucs, le sommeil, la boisson ou la respiration, en dernier, c'est l'alimentation, hein. Donc ouais. Tu as remarqué les personnes que tu accompagnes, par exemple, au début, est-ce que c'est difficile pour elles de trouver le sommeil en supprimant les glucides le soir, par exemple?
Non, pas toutes, pas toutes. Et puis souvent, en fait, moi, les gens qui viennent me voir, c'est plutôt des gens qui ont déjà essayé tout seul. Parce que les gens essayent tout seul. Et s'ils viennent te voir, c'est parce qu'il y a des trucs qui se sont pas passés. Donc souvent, en fait, le sommeil, c'est soit t'es une personne qui a le sommeil éclaté et diète cétogène ou pas, ça se passe pas. Soit t'as plutôt un bon sommeil et en fait, diète cétogène ou pas. Tu vois, enfin, j'ai l'impression que, comme tu disais, en fait, l'alimentation, dans le fond, ça va avoir un impact dessus, mais c'est peut-être pas le principal. Peut-être à quelle heure tu manges, c'est plus important que ce que tu as mangé. Peut-être que, enfin, pas dans ce que tu me disais toi, dans ton expérience finalement, mais moi, je le vois par exemple, si j'ai passé une journée où je suis pas allée dehors du tout, j'ai pas vu la lumière naturelle du tout, et que par contre, je me suis enfilé écran sur écran sur écran, même avec les protections que j'y mets, là, je vais avoir un sommeil pas terrible. Bien au-delà de ce que j'ai mangé ou pas mangé.
Ouais, non, tout ça, ça joue énormément, on ne se rend pas compte. Hein. Ouais, c'est hyper intéressant. Je voulais te poser la question aussi par rapport aux hormones, du coup. Est-ce que toi, dans ton parcours, est-ce que tu as eu une différence aussi sur ton cycle hormonal? Est-ce que tu as eu des règles plus longues, plus courtes? Est-ce que tu as eu des aménorrhées? Est-ce que tu as eu moins de sang, plus de sang? Est-ce que tu peux nous parler de tout ça?
Ben, en fait, moi, quand j'ai commencé, j'avais plus mes règles. Enfin, parce que je m'amusais à faire des monodiètes, je m'amusais à faire du jeûne tout le temps. Puis, juste ce que je mangeais pas assez. Donc, c'est la première chose qui est revenue chez moi, c'est que mon cycle est redevenu bien. D'un coup, j'avais plus de syndrome prémenstruel. D'un coup, c'est pas une horloge, mon cycle, mais c'est revenu à 5 jours. Et surtout, tous les désagréments qui vont avec ont disparu. Enfin, si je tiens pas les comptes, je vais avoir mes règles et je vais me faire surprendre. Je ne la vois pas arriver, quoi. Et pour moi, c'est quand même un des signes que j'avais trouvé quelque chose qui allait pour moi, parce que je pense que à partir du moment où tu fais une diète qui dérègle ton cycle, ton corps il dit non, non.
Ouais, et est-ce que du coup ton alimentation avant, d'après ce que je comprends, était très restrictive, c'est ça?
Ben, j'ai fait beaucoup de n'importe quoi. Dis donc que avant de commencer le cétogène, j'ai fait, je sais plus, 1 ou 2 ans de paléo, tu vois. Et ça a quand même remis pas mal de trucs bien. Mais je me sous-alimentais encore parce que je voulais absolument perdre du poids tout le temps. C'était mon obsession. Donc c'était jamais assez, tu vois. Et je pouvais manger. Ok, ma diète était clean dans un sens que quand tu manges paléo, tu ne manges pas trop transformé. Mais en fait, je mangeais moins de 800 calories par jour.
800.
Donc, ouais, moins. Je faisais moins. Et je perdais pas de poids. Hein. Et je peux te dire que j'étais pas de bonne humeur, j'étais éclatée, j'étais invivable, voilà quoi. Donc oui, on peut dire que c'était restrictif.
Ah oui, 800 calories. Ouais, c'est mon petit déj. Ouais, c'est sûr que là, c'est aujourd'hui, c'est différent. C'est sûr que à midi, tu as déjà mangé plus de 800 calories, quoi.
Ah oui, de longtemps, ouais.
Ah oui, là oui, c'était restrictif. Mais du coup, alors, t'as eu l'impression en fait que avec la diète cétogène, ça a réglé beaucoup de tes problèmes, etc. Mais est-ce que finalement, c'est pas parce que t'étais en restriction et que même une diète finalement normale à plus de 2000 calories aurait pu aussi faire l'affaire?
Je sais pas parce que je sais pas. J'ai essayé, j'étais allée chez un nutritionniste, enfin, je suis allée chez plusieurs, en fait, avant de m'intéresser moi-même à me dire, non, je vais faire les choses moi-même. Et en fait, bah, il m'avait donné une diète occidentale à, je ne sais plus combien de calories, mais je crois que j'étais à 2000 calories par jour, un truc comme ça. Mais en fait, il y avait du pain, il y avait des pâtes, il y avait tous les trucs qui, à moi, me donnent mal au ventre et je me réveillais la nuit. Si tu veux, peut-être que j'aurais réussi, par exemple, peut-être que j'aurais réussi à avoir les mêmes résultats que ce que j'ai eu avec la diète cétogène, avec un truc, avec des glucides qui se digèrent correctement, sans du pain ou des céréales de tout poil, machin. Rien dit qu'un jour je vais pas me diriger là-dessus, d'ailleurs, mais je sais pas, je peux pas répondre à cette question, quoi. Parce que j'ai pas fait cette expérience.
Ouais. C'est une question intéressante parce que souvent, tu sais qu'il existe plusieurs entérotypes au niveau de notre microbiote. Et il y a des personnes qui sont plus adaptées en fait à manger plus de graisse, plus de lipides et qui tolèrent un petit peu moins les fibres parce qu'ils ont une population bactérienne en fait dans leur microbiote qui est moins développée que certaines autres personnes qui peuvent consommer une grande quantité de fruits, de légumes, de fibres, etc. Et ces gens-là s'en portent très très bien. Hein. Tu vois que On est tous différents, hein. Moi, j'ai suffisamment de personnes en accompagnement, etc., pour voir à quel point je peux pas donner deux diètes identiques, tu vois. Et ce que je trouve dommage avec des diététiciens, c'est qu'ils vont faire une généralité, ils vont donner un petit peu la même chose à tout le monde. Et surtout, ce que je remarque, c'est qu'ils donnent beaucoup trop de glucides. Parce que tu vois, là où moi, je suis quand même d'accord avec toi, c'est que en fait, je suis un peu au milieu, tu vois. T'as l'OMS qui va te préconiser 55-60% de glucides. T'as la diète cétogène qui en préconise 20, 0, tu vois. C'est quoi, 5%, vous, que vous consommez, je crois, à peu près. Et moi, je me situe un peu au milieu de vous deux, en fait, tu vois, des deux extrêmes, où je me dis, ouais, il y a quand même pas mal de personnes qui doivent manger low carb, tu vois. Mon homme, c'est un extraterrestre, lui, il peut manger des quantités de glucides astronomiques. Voilà, jamais je mange comme lui. Je mange comme lui, je deviens un tonneau. Ah non, mais moi, je peux pas, en fait. Et lui, il crame tout, il crame tout, il crame tout. Enfin, c'est son métabolisme qui est comme ça. Et honnêtement, moi, les personnes qui viennent vers moi, parce qu'elles ont des problèmes de poids, etc., et souvent, elles ont consommé trop de glucides, tu vois, par rapport aux recommandations officielles, hein. Et pour moi, honnêtement, même mon homme qui a une tolérance de glucides extrême, il consomme pas 55% de glucides, il en consomme beaucoup, mais il n'est pas à ce niveau-là, tu vois. Moi, je suis plutôt, tu vois, aux alentours de 30-35% de glucides. Je suis en low carb, en fait, tu vois. Si tu regardes par rapport finalement aux recommandations officielles, et la plupart des personnes que moi j'accompagne, je les mets pas super hautes en glucides, tu vois, et franchement ça va super bien. Mais quand tu as une tolérance moyenne aux glucides comme moi ou la plupart des personnes que j'accompagne, tu vas voir un diététicien qui te met avec beaucoup de glucides et dès le matin avec du pain blanc, avec des pâtes blanches, avec du gluten, etc. Forcément, les gens disent ça marche pas les glucides c'est le mal. Donc je vais faire une diète cétogène et en effet ils se sentent mieux, tu vois. Mais des fois je me dis il y a quand même ce petit juste milieu, tu vois, qu'il faut arriver pour pas être dans les extrêmes ni d'un côté ni de l'autre, tu vois, et de se dire ok, on va quand même essayer de manger un petit peu de tout, pas en grande quantité, pour au moins avoir une diversité au niveau du microbiote, etc., tu vois. Donc c'est plus par rapport à ça où je me dis peut-être que tu aurais été accompagné différemment. Peut-être, tu vois, tu aurais trouvé aussi ton compte avec une alimentation
Certainement.
plus basse en glucides que la normale, parce que voilà, moi je fais partie des personnes qui ont certainement aussi des problèmes avec une insulinorésistance. C'est pour ça que j'ai fait une formation sur comment mincir avec ses hormones, justement où j'explique en fait tout ça, tu vois, le système hormonal, l'insuline, etc., où on arrive à, en fait, si tu veux, à générer une insuline qui est quand même assez stable et pas trop haute. Mais sans être dans les extrêmes, tu vois, pour éviter. Enfin, c'est mon questionnement, tu vois, par rapport à toi et à ton cheminement, et je me dis peut-être, il y aurait eu un
Ah, mais
accompagnement différent.
c'est très possible. Mais en même temps, c'est très possible. Mais en même temps, moi, je ne regrette pas parce que je pense que c'est une expérience aussi. Enfin, être en cétose et être céto-adapté, c'est quelque chose qui vaut le détour de faire juste pour savoir comment ça sent, quoi. Et après, si c'est trop d'efforts sociaux ou de se priver de choses que t'aimes par rapport à un bénéfice que toi, tu jugeras pas si fou, alors c'est mieux d'aller vers effectivement un truc low carb ou quelque chose qui ira pour toi. Moi, en fait, il se trouve que aussi ça correspond à moi, je mange plein de trucs que j'aime bien et je pense qu'on reste pas, on reste pas 7 ans et demi dans une diète si on n'aime pas. Hein. Il y a un moment où la volonté fait pas des miracles. Donc voilà, mais c'est vrai que sur le plan, c'est vrai que sur le plan hormonal ou même des effets de santé, j'aurais peut-être eu des résultats autrement.
Ouais. Bon, après, voilà, t'as encore plein d'expériences à faire dans ta vie, on sait jamais. Tu vois, mais c'est bien parce que tu fermes pas la porte non plus, tu vois, en disant non, jamais de la vie, je serai toujours en
Ouais, non.
tu sais pas, peut-être demain, ça, tu changes d'avis, Ça peut changer, quoi. Alors, je t'ai parlé des hormones, je t'ai parlé du sommeil. Ah oui, c'est ça que je voulais te demander aussi, c'est au niveau coût. Est-ce que tu penses qu'une diète comme ça coûte plus cher ou moins cher qu'une diète classique
Bah, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui coûte cher, c'est la viande, le poisson, les trucs comme ça, surtout si tu les veux de qualité. Et en fait, vu que les quantités sont moindres qu'en diète occidentale, je pense pas que ça coûte si cher que ça. Je pense que ça coûte cher aux gens qui se bourrent de viande et de poisson. Mais moi, après, ce qui coûte cher, c'est que je veux acheter bio, quoi. Donc là, par contre, on est sur autre chose, mais ça serait la même chose. Après, quand on a la possibilité de manger, je mets un bémol à ça, quand on a la possibilité de manger des céréales quand même, des trucs qui sont plus économiques, peut-être qu'on ça coûte moins cher.
Quoique
Franchement, ça
les
fait
fruits et les
longtemps que...
légumes, ça coûte cher aussi, hein.
Ouais. Ouais, mais enfin, je veux dire, le gros de ce qu'on on consomme beaucoup de genre de beurre de trucs qui ça dans le fond c'est pas très cher et les légumes t'en prends mais des petites quantités donc moi j'ai pas l'impression que ça soit coûteux mais je suis pas objective je pense ça fait comment.
T'as déjà calculé ton budget?
Ah oui, moi je. Bah je oui, j'ai toujours le même. De toute façon, je peux pas le. Moi, je suis dépensière en bouffe. Je vis seule. J'en ai pour 450 par mois. Mais après, j'achète des michetonneries. Tu vois, j'achète qui d'une poudre MCT aromatisée au chocolat, qui d'un. Tu vois, j'achète aussi des trucs dont je pourrais me passer.
Ouais, tu te fais un peu plaisir, entre guillemets, dans ta diète quand
Bah
même.
oui, bah oui. Non, mais non, mais... non, parce
Ouais.
que c'est bien gentil les boissons grasses, mais qui a envie, c'est possible, mais qui a envie de boire son infusion nanin avec juste du beurre qui flotte à la surface? C'est quand même pas très sexy. Tu peux le faire, mais tu vois, on a de la chance, il existe des produits qui permettent de faire les choses de manière un petit peu plus sympa, ben voilà.
Ok. Ouais, je vois. Ouais, donc 450 euros à peu près de budget par mois en nourriture, en ayant des petits trucs, des petits à côté, quoi.
C'est beaucoup ou pas? Je ne me rends pas compte si...
Non. Enfin, ça, c'est. Les gens qui vont manger une alimentation classique ou méditerranéenne, etc., qui vont pas forcément manger bio, je dirais par personne, tu en as au moins pour 80 euros par semaine. Donc, ouais, je dirais la moyenne, ça doit être 300 euros par mois par personne. Moi, je dois être à peu près comme toi, hein, je pense, hein. Tu vois, bon, moi je mange beaucoup plus de protéines animales que toi. Moi je suis bien au-dessus. Je mange vraiment beaucoup de protéines animales.
Céline coûte cher, on vous le dit. Si vous la voulez à la maison, elle coûte cher.
Voilà. Ouais. Et bon, bon, et encore, moi tu vois, je ne suis pas consommatrice de viande rouge. C'est ce qui coûte le plus cher. Ou alors des poissons, machin, tout ça, tu vois. Moi, ça va, des petits poissons, ça me va bien. Viande blanche, ça me va bien. Quelques œufs, tu vois. Et encore, j'ai mes poules, tu vois. Donc, ça me fait des petites économies à droite, à gauche. Puis, j'ai mes salades qui poussent dans le jardin aussi. Donc, c'est pratique. Mais ouais, en moyenne, allez, je pense que je dois être à peu près comme toi. Voilà. Est-ce que tu trouves qu'il y a une grande communauté en fait de personnes qui sont cétogènes, qui le font comme il faut et qui tiennent sur le long terme? Est-ce que tu as des personnes que tu suis, toi, que tu as vu aussi leurs effets, les bienfaits et qui arrivent à tenir sur le long terme?
Ben, moi en fait, je vais vraiment passer pour une personne détestable, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font comme il faut. Et donc, par conséquent, les personnes que je connais et suis, et tu vois, il y en a, mais pas plein. Dans mon groupe privé, enfin, cours sur le métabolisme, ben, on est une cinquantaine. Et j'estime que là, c'est des personnes qui font plutôt bien et puis qui ont et qui en ont les bénéfices et qui. Mais je trouve pas que la majorité de la communauté keto donne le bon exemple. C'est horrible parce que je vais mettre tout le monde à dos.
Non, 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 mais c'est après c'est bien que tu expliques qu'est-ce que tu vois toi
Par
comme
exemple,
erreur.
pour moi, donner un modèle de le cétogène, c'est consommer les mêmes merdes que tu mangeais avant, c'est-à-dire le pain, enfin, pardon pour le pain, mais je veux dire, aller acheter des pancakes keto et des barres keto et du chocolat keto et des bonbons keto et des pizzas keto, en fait, la seule chose que tu as changé, c'est la boutique, c'est pas tes habitudes, c'est pas ton mode de vie. Et en fait, les gens qui font ça et qui vont crier partout que c'est génial d'être en cétose, bah, ça me gêne un peu parce que déjà, ils n'en savent pas beaucoup de ce que c'est qu'être en cétose. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pour eux dans les années qui viennent, mais je ne suis pas très confiante. Et je pense que ça diffuse pas, ça respire pas la santé, quoi. Tu vois? Et ça m'embête un peu parce que
Parce que
c'est pas.
tu veux dire qu'en fait, c'est des personnes qui se sont mis à un mode de vie différent, mais qui continuent en fait à consommer des trucs industriels, quoi.
Mais en fait, je pense qu'elles n'ont pas changé grand-chose du coup. Enfin, le mode de vie n'est pas différent parce que c'est pas que tu as arrêté de manger du sucre, c'est que tu consommes des trucs qui d'un coup, des substituts de ce que tu mangeais, mais avec une version keto, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du sucre normal, tu as des sucres d'alcool. Et des fois, c'est pire en fait. Alors, pour te fournir du pain, puisque tu ne peux plus manger de glucides, on te donne des trucs à base de gluten pur. Enfin. Du coup, pour moi, il n'y a plus de sens parce que les personnes qui veulent faire du cétogène, par exemple, parce qu'elles ont une maladie auto-immune qu'elles voudraient renverser, ça n'a plus aucun sens. Les personnes qui ont des problèmes d'intestin poreux et qui viennent et qui se bourrent de cacahuètes et d'oléagineux et de fromage, mais pardon, mais c'est vraiment pire pour moi. Et du coup, pour revenir à ta question, je ne trouve pas qu'il y ait une très large communauté qui donne envie de faire le cétogène parce que le faire bien et sans se heurter le métabolisme, ça demande d'apprendre beaucoup de choses et de faire beaucoup de sacrifices. Et tout le monde n'en est pas capable. Donc, c'est horrible, ça fait genre élitiste comme ça, mais dans les faits, il vaut mieux faire une diète low carb intelligente qu'un cétogène à la con. Ça fera moins de dégâts.
Oui, en fait, les personnes remplacent les vrais sucres par des faux sucres, des édulcorants, etc. Et en fait, c'est encore pire.
Mais oui, mais si t'as mal au ventre, mange mange je sais pas, des glucides qui t'agresseront pas l'intestin plutôt que de manger un pain à base de gluten pur.
Je savais pas que ça existait, ça, c'est avant.
Catastrophique. C'est des boutiques qui racolent parce qu'en fait, ils se sont appuyés sur des influenceurs, des comptes Instagram de gens qui savaient plus quoi faire après avoir vendu des sacs Louis Vuitton et des trucs avec des codes promo. Ils se sont dit, tiens, ils ont vu de la lumière, tu vois. Ils se sont dit, tiens, je vais me mettre sur la sphère cétogène. Et après, ces boutiques-là les arrosent. Et du coup, ben, les gens les suivent parce que c'est le principe c'est des influenceurs qui viennent de la télé-réalité ou des trucs comme ça. Et donc, ils ont une très large audience, mais ça diffuse un modèle qui est vraiment. Je m'intéresse pas à ma santé, je m'intéresse pas à mes hormones, je veux pas savoir ce que je mets à l'intérieur. Donnez-moi mes Mars, donnez-moi mes Bounty.
Ouais, mais keto.
Et du coup, la boutique, ça te vend du rêve, puisque tu peux acheter des cookies, puisque tu peux acheter des bounties, puisque tu peux acheter du pain, puisque tu peux acheter des pâtes. Quel est le problème? Mais si tu voulais changer de diète, c'est qu'a priori, il y avait un truc chez toi qui ne fonctionnait pas et que tu ne comprenais pas et que tu voulais mieux pour toi. Donc, je trouve ça décevant de faire ce choix-là. Bon, excuse-moi, parce que du coup, on a énormément digressé de ta question initiale.
Non, non, mais c'est intéressant, justement, qu'il y ait peu de personnes qui reflètent un vrai cétogène. Parce que j'ai une personne que je suivais là justement sur Insta, qui a un compte qui s'appelle Keto, je ne sais plus quoi. Et je me suis dit, oh, bah, c'est intéressant, tiens. Moi, je m'intéresse toujours en fait à ce que font les autres. Je suis hyper ouverte, tu vois, à différentes choses. En ce moment, je m'intéresse énormément à tout ce qui parle de l'alimentation ancestrale, carnivore, tu vois. J'ai envie de comprendre en fait, tu vois. J'ai envie de comprendre pourquoi en fait ces personnes-là vont vers ce type d'alimentation. Parce que derrière, je pense qu'il y a toujours une explication en fait de pourquoi on va vers ce type d'alimentation extrême en fait d'un côté comme de l'autre. Et cette personne en fait, c'est avec son compte keto sur Instagram, parle de plein de choses keto, mais tu vois, elle va mettre en avant certains glucides, tu vois, elle va parler du miel, elle va dire qu'on peut manger ci, on peut manger ça, tu vois. Et en fait, si tu veux, c'est là où je me dis. Mais en fait, t'es pas vraiment keto, en fait, tu vois, c'est pourquoi en fait pourquoi t'appelles ton truc Instagram keto, je sais pas quoi, alors qu'en fait, il y a des glucides et tout. Alors après, je me dis, peut-être qu'il y a des formes de keto, tu vois, qu'il n'y a pas un seul keto qu'on peut faire, tu vois, qu'il y a peut-être plusieurs cétogènes, mais en fait, finalement, les gens, ils sont quoi? Ils sont low carb, ils sont plus en keto, tu vois, donc.
En low carb. Mais justement, en fait, moi, j'aime pas, tu vois, l'idée. En fait, les gens qui veulent vendre leur keto, leur truc, c'est parce que ils veulent te faire miroiter qu'il y a une recette, une formule de la perte de poids qui existe quelque part là dans l'univers et que eux, ils ont trouvé. Donc, il y a le keto cycling et le one meal a day keto et le truc carnivore. Mais en fait, c'est juste le next step parce que maintenant, c'est plus à la mode le cétogène. Les gens, ils ont rushé là-dessus en 2019, 2019, 2021, en se disant qu'ils allaient perdre plein de poids. Ils ont fait n'importe quoi et ensuite ça marche plus. Et ensuite ton métabolisme il est éclaté. Et ensuite qu'est-ce que tu fais? Bah, tu cherches la traîne d'après. Donc c'est quoi l'étape d'après? Bah, c'est peut-être le carnivore. Ou c'est peut-être le carnivore avec du miel. Ou c'est qui a beaucoup de sens. Hein. Tu vois, et pour moi, en fait, il n'y a pas de truc miracle. Il y a juste des choses qui vont te permettre à toi ou non de retrouver un équilibre hormonal et même des mitochondries qui fonctionnent. Mais si tu fais pas l'effort de comprendre ce que tu fais, si tu fais pas l'effort de voir si ta diète elle fait quelque chose à tes hormones ou non et comment ça marche et pourquoi pour toi ça marche pas et pour elle ça marche, nanana, ben en fait t'es condamné toute ta vie à courir après la next fad diet quoi. Et c'est pour ça que enfin, je suis pas sûre d'avoir raison, tu vois. Je suis pas sûre de savoir c'est quoi la meilleure alimentation pour l'humain aujourd'hui, puisque notre contexte il a changé. On vit plus comme on vivait avant. On n'a plus les mêmes intestins, on n'a plus les mêmes conditions, on résiste plus aux mêmes trucs. Donc peut-être qu'on a plus besoin de la même chose. Juste moi, je veux bien vivre. Je veux être contente de ce que je mange, avoir de l'énergie. Avoir le corps que je veux aussi, parce que on va pas se mytho, ça compte. J'ai vu une phrase de toi que tu avais écrit sur ton compte Instagram, j'ai trop aimé. C'était marqué on peut pas soigner un corps qu'on déteste. Et en fait, ça a fait écho à 30 000 trucs. Tant que tu te détestes, tu peux faire un peu ce que tu veux avec l'alimentation, ça va pas se passer.
C'est clair. Qu'est-ce que je voulais te poser d'autre comme question?
Je suis désolée parce que moi je fais des digressions infinies. C'est
Oui.
incroyable. Je ne te dis pas en coaching comme c'est.
Non, mais en même temps, c'est bien, c'est hyper riche parce que il y a tellement de trucs. C'est pour ça que je savais que cette interview allait durer pas mal de temps parce que moi, j'avais beaucoup de questions à te poser. C'est un peu comme waouh, j'en ai trouvé une qui fait un truc qui tient depuis super longtemps. J'ai envie de savoir c'est quoi son secret, tu vois. Parce qu'au final, des personnes vraiment cétogènes, céto-adaptées, qui font ça depuis des années, qui le font bien. À qui je peux poser des questions, j'en ai pas trouvé en fait, tu vois. C'est pour ça que je te disais, est-ce que t'as des gens, tu vois. Et il y en a plein, en fait, qui se sont lancés et ensuite qui ont abandonné, entre, enfin, pas vraiment, qui ont pas dit qu'ils ont abandonné, mais qui ont dit, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire avec la diète cétogène et depuis, j'ai réintroduit des glucides, mais je suis toujours en low carb. Il y en a une aussi que je suis sur Instagram, comme ça, je sais pas de quelle origine elle est. Mais en fait, je l'ai trouvé par rapport au bouquin, tu sais, de Inchospé, qui parlait de des glucides révolution,
Glucose
glucose révolution, voilà, c'est ça. Et en fait, comme je m'intéressais à elle, j'avais tapé son nom sur YouTube et j'étais tombée sur une des vidéos d'une nana en fait qui parlait de son expérience et qui disait qu'elle avait été keto pendant un long moment, qui ensuite a parlé du livre du Glucose Révolution et qui a bifurqué plutôt vers le low carb parce que elle fait du CrossFit, etc. et que elle s'est dit non mais quand même je me rends compte que j'ai quand même besoin d'un peu de glucides pour bien fonctionner, etc. Mais en gros elle se situait entre 100 grammes et 150 grammes de glucides par jour, tu vois, donc ce qui est quand même un low carb. Mais elle a arrêté d'être en no carb parce que pour elle ça convenait moins par rapport à son mode de vie. Et elle ressentait quand même qu'elle avait plus d'énergie, mais elle sentait aussi que si elle montait trop en glucides, elle se sentait pas bien, elle faisait des hypos, etc. De la même manière que moi, si je le fais demain aussi, si je monte voilà, si je monte à 300 grammes de glucides par jour, je me sentirais pas bien, tu vois. Je sais que trop de glucides chez moi, ça fonctionne pas. Donc moi, j'ai répertorié ça, on va dire entre guillemets, tu vois, sur des types de métabolisme. J'appelle ça métabolisme cueilleur ou chasseur, tu vois. C'est plus que, voilà. Et en fait, c'est une répartition en macronutriments qui est complètement différente entre le chasseur, qui va avoir un problème un petit peu avec son insuline, etc., qui va manger beaucoup plus de lipides et beaucoup moins, de glucides. Et le cueilleur, en fait, mon homme, par exemple, tu vois, moi, je suis chasseuse, donc je m'estime, en fait, dans mon petit truc que j'ai créé, je m'estime comme chasseuse et j'estime mon homme comme un cueilleur, tu vois, qui a une plus grande tolérance aux glucides, qui peut en manger beaucoup plus. Mais après qu'il les brûle, tu vois, aussi, parce qu'il fait énormément de sport, etc. Je pense qu'un grand sportif peut aussi consommer plus de glucides qu'une personne qui est sédentaire, qui tolère mal les glucides. En fait, je pense que les glucides, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de vérité dans les glucides. Il y a juste une fourchette dans laquelle il faut arriver à se situer. Et moi, demain, j'arrête de faire du sport, je diminue mes glucides, tu vois. C'est le macronutriment que je vais diminuer parce que j'en ai beaucoup moins besoin. Mon foie, au bout d'un moment, il sature. Je sens que je sature, je fais du gras, tu vois. Donc, je diminue mes glucides parce que je vois que j'en ai moins besoin. Par contre, je suis très, très active, je bouge beaucoup et je trouve que le nombre de glucides que je mange, moi, par rapport à toute l'activité que je fais, finalement, je suis un très, très low carb, tu vois, par rapport à la population qui en mange plein et qui est sédentaire. Mais je pense que les glucides, en fait, ça doit être un truc où tu dois avoir un curseur, en fait, où il faut arriver à trouver où le situer en fonction de qui tu es, ton activité et ta manière à métaboliser les glucides ou pas. Et aussi une question d'âge aussi. J'ai l'impression que moi, par exemple, plus je prends de l'âge et moins je tolère une grande quantité de glucides aussi. Tu vois, j'en tolérais beaucoup plus quand j'étais ado, enfant, etc. Et plus j'avance dans l'âge et moins je peux en consommer. Tu vois, plus je vais faire du gras avec, et moins je vais l'utiliser en énergie, en fait.
Non, mais c'est vrai que c'est une bonne façon de voir les choses parce que même si je pense dans ce fameux curseur, il y a un truc indépassable, c'est qu'il y a un moment, si tu voudrais être en cétose, tu pourras pas beaucoup le bouger. Mais au-delà de ça, c'est de l'énergie en fait, les glucides. Donc, en fonction de combien tu as besoin d'énergie, bah, tu déplaces quoi.
Ouais, non, mais c'est carrément ça. C'est par
Mais
expérience, ouais.
c'est aussi pour ça qu'il faudrait, quand on veut faire un cétogène, bah, il faut faire pareil avec le curseur. Tu as mis à zéro ton curseur de glucides, bah, tu dois l'autre, le curseur du grain, parce que ton énergie, c'est ça, il faut l'augmenter. Et les gens pensent tous que, ouais, non, mais puisque j'ai enlevé les glucides, bah, mon corps il va se mettre à dégrader du gras pour faire des cétones. Et c'est pas ce qui se passe, parce que il y a des tas d'années que vous avez arrêté de le faire et que vous avez perdu la capacité de le faire. La preuve, c'est que si tu étais capable de le faire, tu pourrais mettre plein de matière grasse et avoir de l'énergie avec. Or, la plupart des gens n'y arrivent pas. Donc, c'est bien que tu n'as pas appris ou tu as désappris. Et c'est pour ça que je te disais en tout début, je trouve que c'est intéressant, peut être intéressant, il y a des gens qui font ça, de faire, je sais pas, 6 mois ou un an de diète cétogène pour retrouver sa flexibilité métabolique. Et rien que ça, c'est un avantage. Rien que ça, c'est un bénéfice, je pense, au corps de se souvenir que ouais, tu peux produire des cétones, de se souvenir que c'est un apport d'énergie qui est bien parce que quand tu fais de l'hypoglycémie, c'est qu'il n'y a pas assez de sucre qui va arriver au cerveau. Ben, tu es bien content qu'il y ait un autre carburant qui puisse venir aussi. Enfin, pour plein de raisons, juste des raisons de survie. Imagine, demain, tu es coincé dans une pièce. T'as pas de chance, il y a eu une attaque nucléaire, t'étais chez Camarataï avec du beurre. Tu vas claquer, hein, s'il y a pas, si tu sais pas faire.
Ouais, non, mais j'avoue, mais finalement, le fait de passer sur deux carburants différents comme ça, l'humain peut le faire parce qu'on a été dans des périodes où il n'y avait rien à manger et il y a des périodes où il y avait plein de trucs à manger, donc on en mangeait plein, on faisait des réserves et du stock dans nos graisses et après, on utilisait ça en fait comme source d'énergie. Donc le corps, c'est un petit peu faire avec les deux types d'énergie, en fait.
Les bébés naissent en cétose, hein.
Ça, je ne savais pas.
Parce que dès qu'il s'agit de manger, je sais pas, dès que tu es plus nourri au sein et que tu es nourri avec autre chose, si tu regardes la composition du lait en poudre, enfin, tu vois. De toute façon, en fait, le bébé est en cétose in utero avec une cétonémie autour de 2, vraiment une belle cétonémie. Après, quand il sort, c'est plus le même game. Ça chute très très vite. Ça chute. Et du coup, sinon, il te réveillerait pas toutes les 2 heures pour manger. Hein. Après, on fait des trucs, on mange autrement et on oublie parce que dans notre société, on fait pas comme ça. Mais le corps est tellement. Enfin, il y a des gens, je sais pas, ils découvrent la diète cétogène à 50 ans. Ça fait 50 ans que tu l'as pas fait. Ben, ton corps, en quelques mois, il retrouve la capacité de le faire. Moi, franchement, je trouve que c'est un miracle, quoi.
Est-ce que tu penses que les femmes, de manière générale, devraient consommer quand même plus de lipides que les hommes et ont une plus grande, un plus grand besoin en lipides aussi par rapport à leur système hormonal?
Oui. Mais je dirais presque la même chose des glucides. Enfin, j'ai l'impression qu'on a un système hormonal plus sensible et qu'on peut moins s'infliger de trucs. J'ai l'impression que quoi qu'on fasse dans un sens ou dans l'autre, il y a certainement des exceptions, mais tu vois, trop de jeûne intermittent, trop de jeûne tout court, pas assez de ci, pas assez de ça. Si tu mets un mec et une femme à faire la même chose, j'ai l'impression que la femme, elle va plus vite en sentir les dommages sur son système hormonal.
Est-ce que tu penses que c'est dû peut-être aussi au fait que la femme doit donner la vie, voilà, on tombe enceinte, on fait des enfants, etc. Est-ce que il n'y a pas un système aussi, tu vois, d'autoprotection, comme si dès qu'on inflige certaines choses au corps, bah, il y a une espèce de rébellion en fait, parce que bah en gros, tu fais un régime, après, le moindre truc que tu manges, je vais le stocker parce qu'on sait jamais, on va peut-être devoir faire un enfant. Tu vois, en fait, t'as l'impression que nous, on n'a pas droit à l'erreur parce qu'on prend le truc de plein fouet après, derrière, parce que le corps, il se dit, attends, on est censé faire des enfants. C'est pour ça que toutes les femmes se battent après leur graisse, leur cellulite, etc. Alors que, est-ce que finalement, le corps de la femme n'est pas fait pour être un petit peu gras, justement pour pouvoir enfanter, etc. Et cette guerre après le gras, est-ce qu'elle n'est pas finalement un peu infondée par rapport au rôle en fait qu'elle a la femme d'enfanter, quoi?
Ben non, mais franchement, c'est des questions que je me pose. Mais comme toi, tu vois, je me dis qu'il y a certainement quelque chose de ce côté. Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que plus tu te bats contre tes trucs comme tu disais, en te détestant, plus ça s'empire. J'ai l'impression que il faut pas donner du momentum et de la. Faut pas en fait vouloir faire une diète parce que tu te détestes, parce que tu détestes ta cellulite, parce que tu détestes ton gras, tu détestes tes cuisses et tu détestes ta gueule parce que ça marchera pas. Enfin, faut vouloir faire un truc parce que tu t'aimes et que tu veux faire mieux pour toi en fait.
Ouais, parce que tu t'aimes, tu te respectes, tu te dis j'ai la chance d'être ici sur Terre, voilà, de pouvoir faire cette vie, etc. Est-ce qu'on m'a donné et je vais essayer de le préserver au maximum. Ouais, moi je suis plus dans cette optique-là maintenant, tu vois, de me dire je fais du sport pour mon bien-être, pour ma santé, plutôt que de dire oui, je veux. Bon, mon gras, j'ai appris à vivre avec, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui est ultra sec, mais en fait.
On se discute.
Non, mais on va dire par rapport aux standards que tu peux voir parfois, tu vois, les filles sur scène, etc. Moi, je suis pas tracée, tu vois, si tu veux, je suis dessinée, mais j'ai autour de moi, j'ai quand même une couche de graisse, tu vois, et finalement, j'ai appris à vivre avec cette couche de graisse que au début je voyais mal. Parce que je me disais, ah, c'est pas bien en fait d'être comme ça. Mais en fait, tu dis, bah, non, en fait, c'est hormonalement, si j'ai pas ça, bah, je suis en mauvaise santé, tu vois. Il y a une différence entre être vraiment en embonpoint et être où c'est délétère en fait pour la santé et avoir une petite couche de graisse qui est normale en fait chez la plupart des femmes et que les standards veulent nous faire enlever, les mannequins qu'on voit sur les podiums, etc., qui sont décharnés, qui sont tout maigres, etc., et qui mangent du coton, tu vois, pour pouvoir s'alimenter. Non, mais c'est vrai, hein. Elle bouffe du coton pour remplir l'estomac et pour pas manger et pour être maigre comme des clous pour au final finir comme un cintre en fait puisque au final c'est quoi ces femmes? C'est des cintres qui portent un vêtement parce qu'il faut surtout pas qu'elles soient visibles tu vois faut en fait une femme comme moi par exemple qui a des formes etc jamais de la vie j'irai sur un podium parce que sinon on regarde plus le vêtement tu vois ce que je veux te dire. Non mais c'est vrai. En fait, dès qu'il y a des formes, dès que voilà, donc c'est on regarde plus le modèle que enfin c'est
Le vêtement.
plutôt que le vêtement. Nous ce qu'on
Ouais,
veut
c'est
c'est que
vrai.
les femmes elles soient toutes calibrées, là, les mêmes, blanches comme des culs, tu vois, pas de forme, plates, juste pour présenter un vêtement. Et en fait, le problème c'est que nous en tant que femmes, on regarde en fait ces femmes et on a une distorsion en fait de ce que c'est réellement qu'une vraie femme, tu vois, avec des formes. Mais il y a une différence entre je me laisse aller complètement, je deviens obèse et c'est mauvais pour ma santé, j'ai de la graisse viscérale, et versus je suis une femme qui fait un peu de sport, qui s'entraîne, qui fait attention à elle et qui a un petit peu de graisse qui entoure mes organes pour me protéger, pour pouvoir avoir des réserves si je dois avoir un enfant, etc. Et on peut pas lutter contre ça, en fait. Bah tu le vois, hein, tu as essayé de le faire, ça marche pas en fait. Il y a comme une résistance. C'est comme si le corps il disait, oh cocotte, non, on perd pas plus parce que sinon tu vas pas pouvoir avoir des enfants et ton système hormonal il va partir en cacahuète. Donc si on veut, on peut finalement mincir entre guillemets, mais on devient décharné et puis on devient exécrable en fait.
Enfin, je pense que la plupart des personnes, et moi la première, hein, en voulant maigrir, ce qu'on veut, c'est être désirable à nos yeux et aux yeux des autres. Sauf que si c'est pour être mince, pas avoir un peu de gras, mais avoir la peau dégueulasse, avoir les cheveux éclatés, enfin, en fait, ça va pas se passer non plus. Oui, il n'y aura pas de gras, mais il n'y aura pas grand-chose d'autre non plus. Donc, je pense que on fait ça aussi pour des raisons on a envie de se plaire, on a envie d'être bien et tout ça. Ben, il y a tout qui va avec. Et si on fait une solution qui va à l'encontre de notre santé, à un moment donné, ça n'aura pas le résultat qu'on veut, quoi.
Ouais, mais est-ce que tu penses pas aussi que la vision que nous, en tant que femmes, on a du corps idéal est pas du tout la même que l'homme va avoir?
Ah oui.
Ben, oui, parce qu'en fait, nous, on va être tracés, on va être sèches, on va avoir des abdos, etc. Mais les mecs, ils n'aiment pas ça, la plupart. C'est
Non.
ça qui est drôle, c'est qu'on se dit, on veut plaire aux autres, mais en fait, à qui? Parce que
Ouais.
les hommes, en fait, ils aiment pas ça.
Oui, puis il y a tout le côté, je pense que ça les emmerde aussi un peu d'être avec une meuf qui va faire chier tout le temps, tout le temps, tout le temps pour la bouffe. Enfin, tout le monde n'est pas. Enfin, moi, j'ai été comme ça, hein. Tu pouvais m'emmener de nulle part. Je voulais jamais rien manger. En plus, du coup, j'étais de mauvaise humeur. Enfin, je pense que. Mais en plus, t'auras pas de libido. Donc,
C'est vrai.
si t'es super bien, mais que t'as jamais envie de ken, bah en fait, c'est pas. Pour le mec, c'est pas. Voilà.
Non, mais en fait, les nanas, je pense qu'on a tout faux. Moi, avec le temps, tu vois, avec toutes les conneries que j'ai pu faire, tous les régimes à restriction que j'ai pu faire, etc., je me dis, mais en fait, tu deviens exécrable, tu peux pas sortir parce que tu veux rien bouffer, parce que tu as peur de grossir. T'as pas de libido, machin, en fait, au final, tu perds ton mec, quoi, parce que tu deviens invivable, t'as pas envie de faire l'amour, en fait, ça va à l'opposé de ce que tu veux réellement. Ce que tu veux réellement, c'est plaire, rester avec une personne, qui va t'aimer, etc. Et en plus de ça, au final, ça reste quelque chose de très superficiel, de se dire, ah oui, mais il va m'aimer parce que je vais être bien physiquement. Déjà, rien que ça, je trouve que c'est débile de penser comme ça, de dire il faut que j'ai un physique comme ça parce que sinon il va pas m'aimer. Ouais, mais à un moment tu vas vieillir, quoi, meuf, tu vois. À un moment tu vas te décharner, tu vas avoir la peau qui pend et tout. Il vaut mieux que ton mec il t'aime pour autre chose que pour ton physique. Et c'est vrai que du coup, à vouloir trop aller dans les extrêmes, moi je vois, je les ramasse à la cuillère, hein, les filles qui veulent essayer de faire des régimes dans tous les sens, etc. Mais au final, après. Bah, ta vie, elle est. T'as pas d'énergie. Moi, j'avais pas d'énergie. J'avais envie de rien faire. J'étais fatiguée tout le temps. Et là, je préfère manger à ma faim, manger ce que j'aime, faire du sport, être forte, puissante, avoir une bonne libido, tu vois, et avoir des formes. Et au final, ça plaît mieux aussi. Et même, je me plais mieux comme ça, finalement, aussi, avec un peu de forme, un petit peu de gras, que d'être complètement plate, parce que moi, j'en ai fait des trucs, hein. Je sais pas si t'avais vu, j'avais partagé une photo où je faisais des jeûnes pendant 10 jours, mais bientôt je disparaissais, tu vois, j'étais.
Mais
Mais voilà.
c'est ton teint qui n'est pas bien sur cette photo. T'as le teint gris sur cette photo. Alors que toi, je t'ai toujours vu avec plein de lumière, quoi.
Ouais, mon teint, et puis j'étais de mauvaise humeur. Je me rappelle de comment j'étais, en fait, dans ce corps-là. Et je me plaisais toujours pas. Je pouvais maigrir, 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 maigrir. Je me plaisais pas parce qu'en fait. Bah, j'étais décharnée, j'étais plate, et puis j'avais pas de forme. Et en fait, ce qui me manquait, moi, c'était d'avoir un corps, d'avoir une masse musculaire, tu vois, d'avoir un corps qui est un petit peu dessiné. Mais voilà, je pense que vouloir aller dans des extrêmes comme ça, de vouloir mincir, maigrir, tu vois, faire vraiment partir tout le gras et tout, en fait, cette quête-là, faut oublier, parce que les femmes, on n'est pas faites pour ça, en fait.
Non, mais surtout que, en fait, ce qui va pas, c'est que, enfin, moi, j'ai pas de problème avec le fait de vouloir me plaire, même si c'est futile, même si c'est, j'ai pas de problème, je l'assume, j'ai envie de me plaire et de plaire aux hommes et de plaire aux autres. Mais je pense que ce qui va pas, c'est quand l'intention de départ, elle est, enfin, c'est, si tu le fais en t'aimant pas, comme je faisais au début, bah tu fais de la restriction justement. T'es prêt à n'importe quoi qu'on te dira et que tu suivras et que peu importe les conséquences, parce que tu t'aimes pas, tu veux juste disparaître. Enfin, c'est pas une bonne formule, mais tu vois. Alors que quand tu changes d'intention et que t'es prêt à faire des trucs qui sont bons pour toi en acceptant que ton corps il ira au rythme où il veut aller, parce que c'est pas toi qui décides de tout et que tout ça n'est pas sous ton contrôle, pas entièrement, bah à mon avis, tu prends des meilleures décisions à la fin. Tu prends pas la décision que c'est pas grave que t'aies plus tes règles si tu perds du poids. Tu prends pas la décision que tu vas acheter des tonnes de Bounty. J'arrête avec ça. J'arrête. Mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, pour moi, il n'y a pas de problème à avoir envie d'un physique, mais avec une intention qui est bénéfique pour soi, pas juste l'image comme ça dans les yeux
Oui,
des autres.
ce qui englobe le physique, c'est aussi le bien-être qui va avec, c'est-à-dire j'ai un physique qui est fonctionnel. Pourquoi moi je me muscle, pourquoi j'ai envie de me muscler, etc. Parce que j'ai envie d'être fonctionnelle, j'ai pas envie d'avoir des douleurs, j'ai envie de bien vieillir. Je sais qu'avec l'âge, on perd de la masse musculaire. Donc autant commencer à la construire bien avant que de commencer à en perdre énormément, parce que après je sais que plus tard j'en aurai moins que ce que j'ai là maintenant. Et après t'as plus de douleurs, t'as plus de difficultés dans ta vie, tu vois. Et moi j'ai envie de bien vieillir quand même, tu vois, malgré tout. Donc au-delà du fait de dire ok, j'ai un super physique, mais derrière je m'en fous de tous les désagréments que ça va causer à mon corps, que je vais plus avoir mes règles, que je vais être exécrable, que je vais avoir une peau de merde, que je perds tous mes cheveux, etc. Mais j'ai un physique qui est ça, c'est important. Et puis de dire c'est pas grave, de toute façon je vais me mettre des rajouts, je vais me faire ci, je vais faire ça, tu vois. Il y a des solutions, hein, on trouve des solutions à plein de choses. Et puis ne parlons pas des personnes aussi qui ne se supportent pas et qui font des milliards de trucs au niveau chirurgie esthétique, qui se font aspirer la graisse, qui se font ci, qui se font ça, qui se font enlever une côte, qui se font, tu vois, à outrance. Et derrière, quand même, il y a des impacts sur la santé dans tout ça. Avant toute chose, je pense qu'il faut faire les choses dans les règles, il faut le faire pour un objectif bien-être et santé. Et derrière, forcément, le corps va suivre aussi. Ça sera sympa ce qu'on va obtenir. On va avoir une plus belle peau, on va avoir une plus belle luminosité, on ne va pas avoir des boutons partout. Parce que le fait de faire des régimes aussi, des restrictions, moi, après, les nanas, elles ont des peaux affreuses, elles ont plein de symptômes dans tous les sens. Mais si elles sont minces et qu'elles sont comme elles veulent, le reste, c'est pas grave, c'est un peu le tapis, tu vois, la poussière sous le tapis, quoi. Et je pense qu'il faut le. C'est le package, en fait. Et à force, tu vois, d'avoir cheminé là-dedans, et je pense qu'on a fait un peu le même cheminement aussi, tu vois, au départ, on a fait les choses pour les mauvaises raisons. Parce qu'on s'aimait pas et qu'on s'est infligé des trucs complètement. Regarde, moi, toutes les diètes que j'ai fait, j'étais à manger des fruits toute la journée, des trucs crus toute la journée. On en a fait des trucs, tu vois, et malgré tout, bon, bah, on a cheminé comme ça petit à petit, quoi.
Moi, je regrette pas, hein. Ça m'a appris plein de trucs que
Ah
je
oui, non, c'est sûr.
malheureusement.
Ça nous a appris plein plein de choses. Ça nous a surtout appris que bah, faut surtout pas faire ce genre de choses. Mais à toi, il y a eu un moment, il me semble, tu n'avais pas fait jeûne intermittent et keto?
J'ai essayé c'était la doxa en fait, tu vois, il faut faire du keto et du jeûne intermittent. Donc j'ai essayé, je me suis rendu compte qu'en fait je ne perdais pas de poids et que après je stockais plus et puis que ça. Enfin moi j'aime manger en fait, donc ça me va pas le jeûne intermittent parce qu'il faut moins manger.
Non, pas moins, faut faire moins de repas en fait, mais tu manges plus
Oui,
que
mais
d'autres
personne
repas.
ne fait ça. Je suis
Ah.
d'accord avec toi. La règle, c'est que tu es supposé manger la même chose sur moins de repas, mais personne ne fait ça. Les gens, juste, ils enlèvent un repas. Donc, en fait, à la fin, ils mangent moins.
Ah oui, au final, c'est quoi le jeûne intermittent? Bah, c'est un régime déguisé, quoi.
J'ai sauté mon petit-déj. Et il n'y a jamais. Et après, les gens, ils ont peur. Quand moi, je dis, il faut enfin, remanger. Si... Les gens me disent, ouais, mais non, parce que si je remange, je regrossis. Mais alors, il y a un problème. Je croyais que ton jeûne intermittent, ça t'accélérait le métabolisme. Bah, si c'était le cas, il n'y a aucune raison que tu regrossisses. C'est bien la preuve que c'est faux.
Oui, c'est la preuve que ça n'a pas fonctionné avec le jeûne intermittent, c'est sûr.
Non. Ça n'accélère le métabolisme de personne, le jeûne intermittent. Arrêtez.
Est-ce que tu connais des sportifs qui sont cétogènes, mais encore des vrais cétogènes, et qui ont des belles performances ou qui ont construit une belle masse musculaire, etc.?
Bah, tu vois qui c'est, Olivier Maria?
Non.
Je crois que son blaze, c'est Kétophren. Je confonds parce qu'il y en a deux. Mais lui, c'est un. Lui. J'ai peur de dire le mauvais nom, donc je dis pas, mais en tout cas, son vrai
Sur
nom, c'est Olivier
Insta?
Maria.
Sur Insta?
Ouais. Mais sur Insta, son nom, c'est. Il y en a deux qui ont deux blazes qui se ressemblent et c'est pas les mêmes. Du coup, je veux pas te donner le mauvais, donc je sais pas. Mais c'est quelque chose comme Keto Frenchie ou quelque chose comme ça.
Ah, c'est low carb Frenchie.
Oui, voilà, low carb Frenchie, oui, voilà.
Sport et cétogène depuis 2016.
Ouais.
Performer en mode cétogène.
Lui, je sais qu'il alterne des phases de low carb et des phases de keto, etc. Mais lui, il perd vraiment quoi.
Il court pieds nus.
Ouais, je
Ah ouais.
kiffe son style.
D'accord. Ouais, donc lui, il est plutôt course à pied, c'est ça?
Ouais.
Okay.
Et vélo aussi, je crois.
D'accord. Donc course à pied, pieds nus, sans carbs. D'accord. Le mec, il se démarque quand même, tu vois.
Et il est sympa.
Et c'est un Français.
Ouais.
Ouais, d'accord. Et en plus en sport de force, t'as quelqu'un?
Non, j'en connais pas trop parce que je pense que c'est vraiment, je pense que vraiment le métabolisme cétogène, il est adapté au sport d'endurance. Parce que dès que tu vas en anaérobie, tu peux plus utiliser de gras. Donc, c'est moins répandu, quoi.
Ouais, donc en fait, tu dirais que si on fait un cétogène, c'est quand même mieux de faire des sports d'endurance plutôt que de la muscu, quoi.
Bah, disons que la muscu, comme les gens la pratiquent, tranquille, tu vois, ça va. Mais par contre, si tu veux faire de la compétition d'haltéro, tu as intérêt à être très solidement céto-adapté. D'ailleurs, c'est pour ça que les athlètes, on leur dit, si tu veux passer en kéto, ça va être très bien, tu vas perfer, mais par contre, tu vas faire un an de contre-perf. Donc, tu te retires un an du circuit de compétition. Sinon, tu vas te prendre le mur, quoi.
D'accord.
Donc, je pense que c'est plus adapté aux sports d'endurance. C'est possible pour les sports qui te font passer en anaérobie, mais à condition d'aller en anaérobie. Tu vois, la plupart des gens que je vois yeah, à la salle, ils se poussent pas trop fort.
Bon, de toute façon, on a fini. On va faire un petit au revoir à tout le monde. Bon, bah, du coup, merci, Joanne, pour cette interview. Pour les
Désolée
personnes
pour les
qui veulent.
digressions.
Comment?
Désolée pour les digressions.
Pour les personnes qui veulent te retrouver sur ta chaîne. Alors, ton Insta, c'est quoi?
Super keto.
Super Keto aussi. Super Keto. OK. Et si les personnes veulent des renseignements par rapport à tes accompagnements, qui veulent se lancer dans le cétogène ou quoi, il y a tous les renseignements sur ta chaîne YouTube.
Oui, enfin, normalement, dans la barre de description, est-ce qu'il faut, et peut m'envoyer un mail à contact@superketo.fr.
D'accord. Et t'accompagnes de quelle manière, toi? Tu fais un mois, une consulte, c'est quoi?
Les deux. Les gens qui sont. Tout le monde n'a pas besoin, tu vois, de quelqu'un pendant un mois derrière lui. Ça dépend des profils et d'où on est. Il y a beaucoup de gens, moi, qui viennent juste parce qu'ils veulent un petit recadrage de ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils sentent qu'il y a des petits. Et du coup, ils n'ont pas besoin qu'on les suive pendant un mois. Et puis, il y en a d'autres qui commencent et qui ont envie d'être rassurés, en fait.
Ouais. Oui, par exemple, tu as des personnes qui vont dire OK, bon, bah, je fais ça, j'ai besoin d'une analyse de ma diète, de ce que je suis en train de faire en ce moment, si je suis sur le bon chemin, si ce que je fais c'est bien, est-ce que je continue ou pas. Et puis, tu as des personnes qui vont partir de zéro, par exemple, demain, si moi je te dis bon, ben bah, voilà, ça y est, j'ai décidé, je vais me mettre au cétogène, je commence par quoi, je fais quoi, tu vois. Ouais, c'est. Non, mais en fait, non. Je crois pas. J'ai pesé le pour et le contre. Je crois que je pourrais jamais, en fait.
Mais...
Je t'admire.
Elle est très bien ta diète. Elle a l'air de 30 ans, donc je vois pas pourquoi tu changerais.
Ah oui, non, mais c'est. Voilà, c'est clair. Non, je suis trop, trop bien. J'ai trouvé mon équilibre. J'ai tellement mis d'années pour trouver mon équilibre que je veux surtout pas changer, quoi.
Je comprends.
Voilà, ouais. Mais après, peut-être des fois par curiosité, tu vois, pour ressentir dans mon corps un truc différent, mais je sais que je tiendrai pas très longtemps.
Punis avec son assiette de beurre dans la
Ouais, non.
cuisine. Tu grossiras de table quand tu auras fini ton beurre.
Je vais faire en sorte que s'il y a une attaque nucléaire, je sois pas chez toi. Mais je sois chez moi parce que, en fait, chez moi, il y a 1 milliard de flocons d'avoine, tu vois. Moi, je sais que je peux tenir au moins 1 an avec tous les flocons d'avoine que j'ai chez moi. Je sais, je vais me faire tirer dessus par beaucoup de personnes qui sont contre les flocons d'avoine, mais moi, c'est ma vie, tu vois. Sans ça, je tourne pas bien, en fait. C'est ma vie. Le flocon d'avoine, c'est toute ma vie. Et mon homme aussi, hein, tu vois, c'est comme quoi.
Vous battrez pour les derniers flocons.
Ouais. Je jette fenêtre avant. Oh, le pauvre. En plus, c'est lui qui va faire le montage et qui va voir la vidéo.
Pense à toi.
Voilà, merci, merci pour le montage, mon amour. Merci de la patience d'avoir écouté jusqu'au bout parce que ça fait presque 2 heures.
Mon Dieu. Bah, merci à toi en tout cas, Céline, et puis merci à lui pour le montage.
Ben, de rien, avec grand plaisir. Écoute, hein, puis si tu veux après qu'on fasse un autre truc sur ta chaîne ou quoi, voilà. On échange
Oui, avec ça.
différemment, tu me poses des questions parce que j'ai testé un peu le site de chaîne, mais pas longtemps.
Non, mais pas plutôt sur ce que toi tu fais.
Avec plaisir, avec grand plaisir, tu me contactes et puis on se fait ça.
D'accord.
Ça marche.
Eh
Ben
bien,
merci.
merci.
De rien, Joanne.
Bon après-midi.
À toi aussi.
Bonne soirée.
Ciao.